RCF. Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Yann, bonjour Pierre-Emmanuel.
Bonjour.
Nous nous retrouvons pour poursuivre nos réflexions autour de cette question importante de l'éducation. Dans l'éducation, il y a bien sûr l'éducateur, nous l'avons vu, mais quel va être exactement son rôle? Est-il simplement là pour, un peu comme un robot, faire passer un certain nombre de messages, ou bien a-t-il un comportement plus important?
Oui, même il y en a certains qui disent que l'éducateur devrait être un modèle, mais un modèle. Quand on écoute nos contemporains, je pense notamment à l'un qui est assez célèbre, il s'agit de Vincent Peillon, pour lui le modèle était assez caractéristique. Hein. Il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes, donc effectivement là-dedans le modèle n'existe pas.
Exactement, on touche du doigt encore une grande distinction entre la vision chrétienne de l'éducation et la vision qu'on avait appelée, faute de mieux, moderne, c'est-à-dire une vision de l'éducation qui ne vise pas la vertu de la personne, mais qui vise son épanouissement, ou alors qui vise son insertion sociale, ou sa place dans la société comme citoyen.
Oui, mais un révolutionnaire, parce que si effectivement l'enfant le coupe de tout ce qu'il a attaché, on en fait quoi?
Et voilà. Alors, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on veut en faire? On en revient finalement à cette définition. La définition chrétienne de l'éducation, c'est l'éducation à la sainteté. C'est l'éducation à l'amour. Et pour ça, on a nous, les chrétiens, une religion dont il faut rappeler que c'est la religion de l'incarnation. On a un message à transmettre et ce message est toujours incarné. Alors il est incarné en premier lieu par le Christ, et il est incarné en second lieu par tous les apôtres, par tous les disciples qui s'en font les relais, c'est-à-dire les éducateurs ensuite. Il faut voir que quand on dit que l'éducateur est un modèle, on ne veut pas dire par là que...
qu'il est parfait.
Exactement.
Ben oui, parce que donc, j'en connais pas. Hein.
Il faudrait... Alors déjà, on pourrait distinguer les deux champs dans lesquels l'éducateur va intervenir. Il y a le champ d'ordre naturel et puis il y a l'ordre surnaturel. L'ordre naturel va comprendre l'instruction, va comprendre la manière de vivre au quotidien. Et l'éducateur a son rôle de montrer par sa curiosité, par sa manière d'utiliser son savoir, donc d'attirer l'enfant à une manière d'être. Dans l'ordre surnaturel, donc la question de la sainteté, qui doit nous obséder, l'éducateur... n'est pas un modèle de sainteté, mais il peut être un modèle de désir de sainteté. Et voilà la première question qu'on peut se poser comme éducateur. Est-ce que vraiment je désire la sainteté? Et j'invite chacun à se poser cette question. Est-ce qu'on se l'est déjà seulement formulé? Et est-ce qu'on est vraiment capable, au fond de soi-même, de mesurer ce désir de sainteté?
On est loin du fait d'arracher les enfants au déterminisme dans lequel ils sont. En d'autres termes, vous êtes en train de prêcher l'idée qu'il faut formater les enfants.
Alors, ce qui est au fondement de cette opposition, hein, entre une éducation qui arrache à un déterminisme et une éducation qui transmet un modèle, c'est la notion de liberté. En effet, d'un point de vue Peillon, pourrait-on dire, de Vincent Peillon, transmettre un modèle, ça veut dire le formater. Attention, qu'entend-on par liberté? Commençons par poser cette question. Si la liberté, c'est une liberté sartrienne qui est d'autodétermination d'un être qui serait présent dans le monde, mais vierge de toute histoire, vierge
et libre de toute attache.
Et dans ce cas-là, en effet, toute contrainte est un empiètement sur la liberté.
Oui, un formatage. Oui.
Si la liberté, c'est la capacité d'utiliser tout son être, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a reçu en vue de progresser dans l'amour, alors là, on comprend bien qu'on a quelque chose à transmettre et qu'il faut que quelqu'un d'incarné le transmette. Parce que, encore une fois, on apprend à être saint, d'accord. Mais la sainteté, qu'est-ce que c'est? La sainteté, c'est l'amour de Dieu. La sainteté, c'est devenir un ami de Dieu. Comment éduque-t-on à l'amour? Juste par des paroles, par des textes, par... On comprend bien qu'un robot ne peut pas éduquer à l'amour. L'éducation à l'amour ne peut que se faire de façon incarnée.
Mais alors comment un éducateur, parce qu'allons concrètement dans les choses, comment un éducateur, un professeur, un enseignant, peut-il être un modèle, concrètement, dans le quotidien ?
Prenons, on va encore distinguer ces deux ordres, hein, l'ordre naturel, l'ordre surnaturel, l'ordre surnaturel venant toujours irriguer l'ordre naturel, mais commençons par la terre, on a les pieds sur la terre, l'ordre naturel, un professeur. Un exemple concret, bah moi je suis professeur de mathématiques, je n'enseigne pas que les mathématiques, je considère que ce qui permet de penser, ce qui est une école de pensée, c'est la culture générale. Il y a un minimum requis de connaissances dans beaucoup de domaines qui permettent de construire une pensée. Eh bien, le professeur devrait être celui qui synthétise en lui cet ensemble de connaissances et montre comment elles lui permettent de construire une pensée.
Eh bien, je crois que la culture générale inclut la musique. Nous nous retrouvons et poursuivons sur ce développement de l'ensemble de la culture générale. Alors, je crois qu'il y a là, effectivement, nous sommes partis des mathématiques et nous allons nous retrouver avec quelque chose de beaucoup plus vaste.
Oui, parce qu'effectivement, des mathématiques à la culture générale, pour ma part, je veux dire que les mathématiques ne font pas partie de la culture générale, mais là, il y a de la provocation.
Alors, il faudrait rappeler l'étymologie que les mathématiques, c'est vraiment ce qu'il faut savoir en grec. Donc, c'est même le cœur de la culture générale. Mais pourquoi ? Parce que par le biais des mathématiques, on apprend l'histoire, on apprend les langues étrangères. C'est au cœur de beaucoup de savoirs. Mais ça, ce n'était que la première idée. Quand je disais que le professeur, par sa culture générale, par son savoir, doit montrer comment lui-même il pense, comment il conduit une pensée. Deuxième étape. Dans l'ordre chronologique, mais pas dans l'ordre logique. Là, je vais parler de ce qui est le plus important. Le professeur, dans sa relation qu'il noue avec ses élèves, montre le chemin à suivre. Dans le regard d'amour qu'il porte sur ses élèves, il montre la voie de l'amour. Donc, ce qui compte, c'est encore une fois moins ce qu'on dit que la manière qu'on va avoir de le dire.
C'est-à-dire donc
ça compte quand même ce qu'on dit. Hein.
Que le professeur doit attacher particulièrement son attention à chaque élève en tant qu'être unique. Ça me fait penser, vous me contredirez peut-être, à cette anecdote que rapportait Chesterton, l'auteur anglais, disant « On doit enseigner le latin à John, que faut-il ?»« Oh, ben, il faut connaître le latin !» Non, vous vous trompez, il faut d'abord connaître John.
Eh bien, c'est exactement ça. Voilà, c'est vous illustrez merveilleusement cette deuxième idée que je voulais passer. La première, c'est être soi-même un modèle de savoir, de curiosité, de culture générale. Mais la deuxième chose par laquelle un éducateur est un modèle, c'est qu'il connaît. Je connais mes brebis, je les aime. Encore une fois, le modèle pour tout éducateur, c'est le Christ. Et la connaissance de la personne est qui doit conduire ensuite à son amour, à vraiment son service. C'est un exercice de charité, l'éducation. C'est ça qui, ensuite, rejaillit sur la personne qu'on éduque.
Alors, j'ai une question qui me vient à l'esprit, qui me chatouille. Là. Notre Seigneur, exemple d'éducateur, l'exemple, a procédé beaucoup par des petites histoires, des paraboles. Tout l'évangile, ce sont des paraboles. En tant que professeur de mathématiques, les paraboles, s'il vous plaît, expliquez-moi.
Alors justement, je crois à mon petit niveau, m'inspirer vraiment de cette manière. Bien sûr que les paraboles sont innombrables. Il suffit de regarder une biographie de mathématicien. Et une fois dans votre vie, pour vous réconcilier avec les mathématiques, Yann, lisez une biographie d'un mathématicien. Je crois qu'il n'y en a aucune qui soit fade. Une biographie de mathématicien est toujours amusante ou alors dramatique. En tout cas, elle nous bouleverse tout le temps. C'est toujours une petite histoire qui permet d'entrer dans la grande histoire des idées.
D'accord. Ben écoutez, je vais essayer de me tourner vers les biographies de mathématiciens. Hein. Mais je reviens à la question. Est-ce que finalement, le but de l'éducation, c'est pas, je reprends le mot qui est un peu gros peut-être, mais de formatage des enfants. C'est une manière de les façonner, non ?
De les façonner. Alors, je dirais plutôt peut-être de modeler, c'est-à-dire de se conformer à un modèle, plutôt que de formater, qui serait quelque chose d'assez figé. Il faut bien comprendre qu'on a une vision dynamique de l'éducation, plutôt que statique. voyez, on pourrait comprendre en effet quand on fixe des bornes, des limites dans une éducation qu'il s'agit de murs barbelés. Ça, c'est qu'on a une vision statique de l'éducation. On empêche la personne de sortir, d'avoir tel comportement. Mais la vision chrétienne de l'éducation, c'est une vision dynamique. On ne pose pas des murs barbelés, on pose des jalons, des repères. Tout ce qu'on dit n'est pas fait pour embrigader, pour mettre dans un cadre. C'est fait pour donner une arme, pour développer une force. Donc, si on prend des images, je donnerais plutôt l'image d'un glaive et d'un bouclier qu'on donne à la personne éduquée. Et ensuite, on lui forme la tête pour qu'elle soit capable de les manier. Mais qui va mener le combat plus tard? C'est pas nous, on va pas le faire à leur place. Et là, on est loin du formatage.
D'accord, oui, je vois le but de l'éducation, finalement, de donner des repères qui permettent après à l'enfant de se déterminer par lui-même.
Des repères, ou dans une vision plus martiale, un glaive, un bouclier, le combat spirituel.
Eh bien, nous avons compris qu'en partant des mathématiques, on pouvait passer à la physique, par la dynamique. Nous avons compris que tout cela nous donnait un certain nombre de repères, nous permettait d'engager effectivement dans le parcours que nous avons ici un combat qui est tendu vers la sainteté. Et je vous laisse sur cette note d'espérance. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour continuer cette réflexion.